Monsieur le conseiller national, quels sont les sentiments que vous avez ressentis lorsque vous avez appris que vous étiez élu à ce conseil national?
Lorsque j'ai été élu au conseil national, j'ai éprouvé une multitude de sentiments. Tout d'abord, un sentiment de fierté, cela est bien normal. Tous les élus, lorsqu'ils sont investis de certains pouvoirs ou lorsqu'ils accèdent à un poste auquel ils ont aspiré depuis quelques années, éprouvent un sentiment de fierté. Ensuite aussi, un sentiment de responsabilité. J'éprouve aujourd'hui un sentiment de responsabilité à l'égard du parti qui m'a élu, mais aussi à l'égard de la région dont je proviens.
Votre première séance a été marquée par la non-réélection d'un conseiller fédéral. Racontez-nous un petit peu l'ambiance à l'intérieur des chambres à ce moment-là. Quel était le sentiment général? Est-ce que l'ambiance était véritablement aussi lourde qu'on a pu le voir de l'extérieur?
Il est difficile, en l'occurrence, de parler d'un sentiment au singulier. Plusieurs sentiments divers se sont manifestés lorsque Christophe Blocher, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas été réélu au Conseil fédéral. Il y a eu d'une part, je dirais à gauche de l'échiquier politique, et parfois même au centre de ce même échiquier, des manifestations de joie, presque un peu décalées, je dirais discutables pour le moins. On a assisté par exemple à des embrassades et presque à des effusions de contentement. Et puis d'autre part, par exemple sur les bancs radicaux, s'est manifesté une attitude de retenue. Et enfin, pour ce qui est de l'UDC, puisque Christophe Blocher appartient à ce parti et était soutenu par lui, eh bien, c'est la consternation qui, dans le fond, était le sentiment prédominant. Donc, si on résume, on peut dire que certains ont exulté au centre-gauche de l'échiquier, d'autres ont fait preuve de retenue, il s'agissait notamment des membres du Parti radical, et c'est bien la consternation qui a caractérisé le sentiment général des membres de l'UDC.
Et vous, plus particulièrement?
Plus particulièrement, je dois dire que je connais bien les institutions de notre pays. Je sais qu'autrefois, de nombreux conseillers fédéraux, quelques-uns en tout cas, n'ont pas été réélus, ou sachant qu'ils ne seraient pas élus, on en tirait les conséquences, ont démissionné. On cite aussi parfois le cas de M. Francis Maté, candidat socialiste de Châtelois qui en 1993 a été élu, a demandé tant de réflexion d'une semaine pour finir par renoncer au bénéfice de Ruth Dreyfus qui, à ce moment-là, accédait au Conseil fédéral. Ce qui est arrivé par contre encore bien plus souvent, c'est que des candidats officiellement présentés par des partis n'aient pas été élus. L'exemple le plus fameux que l'on puisse citer à cet égard, c'est celui de 1973. À ce moment-là, les socialistes ont présenté un dénommé Arthur Schmid, qui était à la fois parlementaire fédéral et conseiller d'État. Il n'a pas été élu. C'est Willy Richard, célèbre conseiller fédéral, qui l'est devenu à ce moment-là. Les radicaux ont présenté un conseiller national qui s'appelait Henri Schmitt. Lui non plus n'a pas été retenu par les gens, puisque c'est Georges-André Chevalat, un vieux routier de la politique suisse, qui a été élu. Et enfin, le PDC avait présenté le Tessinois Franzoni, et c'est le Tsouroi Hurlimann qui a été élu. Pour en revenir à mes sentiments, je dirais tout simplement que, comme je soutenais la candidature de Christophe Blocher et que j'ai voté pour lui, j'ai évidemment éprouvé une certaine déception.
Depuis, le calme semble être revenu, c'est seulement en apparence ou c'est véritablement...
Oui, le calme est revenu, du moins au niveau institutionnel. Le gouvernement fonctionne, il est formé de 7 membres qui chacun se retrouve à la tête d'un département. Du point de vue des institutions, nous sommes en navigation sur eau calme en haute mer. Par contre, il est vrai qu'au niveau des partis politiques, le calme n'est pas encore revenu. Et c'est vrai que l'UDC doit encore se définir face à cette situation politique nouvelle.
Cette espèce de tremblement de terre a provoqué des réactions, pas seulement dans les chambres, mais aussi à l'extérieur, chez le citoyen normal, qui a eu de la peine à comprendre le fonctionnement de cette démocratie.
Oui, le citoyen ne sait pas toujours que ce sont les chambres fédérales, c'est-à-dire le Conseil national et le Conseil des États, qui élisent les 7 membres du gouvernement. Beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes pensent que lorsque l'on n'accorde beaucoup de suffrage à un parti, en l'occurrence à l'UDC, et notamment à son leader, Christophe Blocher, ont enjoint les gens fédérales d'élire ce candidat au Conseil fédéral, ce que ne prescrit pas la Constitution, ce que ne prescrivent pas non plus les lois qui, en l'occurrence, s'appliquent. Mais il est vrai que Christophe Blocher est un cas singulier de la politique suisse. L'UDC a recueilli, c'était un record depuis l'introduction du système proportionnel dans notre pays en 1919, a recueilli 29% des suffrages, c'est énorme en Suisse. Christophe Blocher dépasse largement en notoriété et en sympathie qu'il attire ce seuil de 29%, puisqu'on a souvent parlé à son sujet d'un taux de sympathie de la population à son égard à la hauteur de 56% à peu près. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie, je dirais même une partie importante de la population suisse qui n'a pas du tout apprécié sa non-élection. À tort ou à raison, pour moi à raison, on peut estimer à tort, objectivement, eh bien on pense que Christophe Blocher, ou ça je parle de la population ici, on pense au sein de la population que c'était un des meilleurs conseillers fédéraux, sinon le meilleur. Il faut reconnaître qu'il a bien dirigé son département et qu'il a été créatif au niveau des idées qu'il a émises. Et on lui accorde, on lui prête aussi un tempérament fort, un tempérament qui est aussi enclin à une certaine cohérence. Donc c'est un être humain qui polarise. Il faut dire qu'au moins plus de la moitié de la population suisse a été fortement déçue de sa non-réélection.
Donc une démocratie représentative, on peut dire, est soumise à quelques...
À quelques limitations.
Oui, oui, dans la perception du peuple. Est-ce qu'on peut continuer dans cette direction-là, ou est-ce que cette démocratie représentative peut changer de direction?
D'abord, il faut dire que la Suisse, contrairement à certaines idées reçues, ne vit pas au sein d'un système de démocratie purement directe. Notre système, c'est bien celui d'une démocratie semi-directe. Notamment, les membres du gouvernement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne sont pas élus par le peuple, ils le sont par les chambres fédérales. Ça, c'est déjà une limitation, une première limitation à la démocratie directe, mais il en est d'autres. Le peuple ne peut pas défaire toutes les lois ou tous les arrêtés qui sont pris par les chambres fédérales. Il ne peut notamment pas influencer non plus le Conseil fédéral lorsque ce dernier... décide des ordonnances qui relèvent de sa compétence. Le peuple n'a rien à dire au niveau des ordonnances. Donc ce sont des limitations extrêmement nombreuses qui restreignent les droits populaires. D'ailleurs, un régime aujourd'hui, au troisième millénaire, de démocratie purement directe est totalement inenvisageable. Avec une démocratie absolument directe et intégralement directe, le système serait très rapidement paralysé, il serait victime de blocages incessants.
Malgré tout, le peuple déserte les urnes de plus en plus.
Oui, le peuple déserte les urnes de plus en plus. Probablement que le premier facteur d'explication réside dans le fait que le peuple est consulté très souvent en Suisse au sujet des initiatives qui lui sont soumises ou des référendums qui lui sont soumis. En moyenne, le peuple suisse s'exprime à peu près 5 fois par an, au travers des initiatives et des référendums, sans compter les élections auxquelles il participe, qu'on peut réduire à une par année, eh bien en moyenne, le peuple suisse est appelé aux urnes 5 à 6 fois par année, c'est-à-dire au cours d'une législature de 4 ans, à peu près 25 fois. C'est beaucoup, et je pense que ce chiffre à lui seul explique pourquoi le peuple déserte parfois assez massivement les urnes en Suisse lorsque... Nous avons un taux de participation de 50%, nous pouvons nous estimer heureux. De surcroît, il faudrait aussi dire que certains objets qui sont soumis à votation présentent un caractère technique évident, extrêmement fort, et cette dimension technique rebute parfois un certain nombre d'ayants droit au vote.
Vous faites partie de l'UDC, est-ce que... On peut expliquer le succès de votre parti par cette phrase « Votez UDC, vous serez entendu ».
En partie, oui. Je crois que l'UDC des 4 grands partis de Suisse, maintenant on peut même parler de 5, hein, puisqu'il y a l'UDC, les socialistes, les démocrates chrétiens, les radicaux et les verts, et les 20 représentants au Conseil national, c'est donc devenu une force politique importante. Donc, de ces 5 partis les plus importants sur l'échiquier politique de notre pays, l'UDC est quand même probablement celui qui se trouve le plus en osmose avec la population, celui qui ressent le mieux les aspirations de cette population. Évidemment que voter UDC ne signifie pas encore que toutes les aspirations populaires seront traduites en réalité politique, mais quand même, l'UDC est un bon relais aux chambres fédérales pour traduire sous une forme politique adéquate les besoins du peuple, les grandes aspirations du peuple. Mais j'aimerais aussi dire ceci encore qui est important, j'insiste souvent là-dessus, quand on parle du peuple, encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est le peuple. Je pense de plus en plus qu'en Suisse, mais aussi dans de nombreux pays occidentaux, nous avons une coexistence de différents peuples. En France, par exemple, on parle parfois de peuple de gauche, de peuple de droite. Ça correspond à une réalité beaucoup plus grande, en accord avec les fractures sociologiques qu'on observe dans tous les pays. Par exemple, un habitant de la ville de Zurich, grande ville à forte connotation urbaine, qui vote vert ou socialiste, moi je ne sais pas si véritablement il fait partie du peuple au sens où l'entend l'UDC. Moi je préfère de parler de coexistence de différents peuples avec leur culture, avec leur attachement identitaire, avec leur représentation du monde, qui à une époque où les repères s'effondrent, les repères traditionnels s'effondrent les uns après les autres, ont tendance à s'éloigner de plus en plus les uns par rapport aux autres, ces peuples.
Maintenant que vous êtes conseiller national, l'homme a changé?
Non, je n'ai pas du tout changé. Absolument pas du tout. Je suis toujours le même. J'entretiens avec d'autres les mêmes relations qu'avant. Tout au plus, ce qui pourrait avoir changé, c'est une facilité d'accès plus grande à la haute administration, à certains médias, ça c'est vrai. Mais je dirais que le relationnel intrinsèque, c'est-à-dire le regard porté sur les autres, l'amitié qu'on peut avoir à l'égard de plusieurs personnes, tout cela ne change absolument pas. Nous ne sommes pas, en étant parlementaires, d'une extraction différente de ceux qui ne le sont pas lointains. Non, non, pas du tout, je n'ai pas changé depuis que je suis membre du Parlement général.
Ceux qui vous connaissent le mieux disent que vous êtes un humaniste. C'est encore possible d'être humaniste au XXIe siècle?
Alors, que veut dire humanisme? Pour moi, l'humanisme, il recouvre deux réalités foncièrement différentes. Tout d'abord, l'humanisme peut être considéré comme une philosophie qui attache une grande importance à l'être humain, à ses souffrances, à ses contradictions, à ses aspirations. De ce point de vue, je suis un humaniste. Mais le mot ou le concept humaniste recouvre une autre réalité à laquelle je suis beaucoup moins attaché. L'humanisme, c'est aussi cette philosophie qui a émergé surtout au XVIIIe siècle et qui est rupture totale par rapport à la transcendance, par rapport à Dieu. L'humaniste veut dire dans ce sens que l'homme doit se déterminer absolument seul, sans référence supra-humaine, et de ce point de vue-là, je ne suis pas humain. La question supplémentaire qui est posée, est-il possible d'être humaniste au sens où je l'entends, c'est-à-dire par la préoccupation portée à l'autre? Est-il possible d'être humaniste dans ce sens-là au début du XXIe siècle? Je dirais oui, bien que le monde actuel soit de plus en plus déterminé par les impératifs économiques, par l'envahissante technologie, par la nécessité du rendement, chose que je regrette infiniment. Je dis, oui, malgré tout, nous devons faire un effort pour que l'homme reste placé au centre de nos préoccupations. L'homme ne doit pas devenir l'esclave du système. J'ai de plus en plus l'impression qu'il le devient, qu'il devient comme un instrument au service d'un système, alors que c'est bien l'inverse qui devrait être la réalité. C'est bien l'économie, c'est bien la société, c'est bien la culture qui devrait être au service de l'homme et non pas l'inverse.
Dans la prolongation, dans le prolongement de ça, vers quel genre de société est-ce qu'on se dirige?
Hier, on m'a posé, dans le cadre d'une interview, c'est une interview de la télévision suisse alémanique, la question suivante: comment la Suisse sera-t-elle dans 10 ans? Quel sera son